France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe, bonne année à tous nos auditeurs
et oui,
lampistes contemporains.
Une belle année avec plein de créations. Il faut dire que si on veut soutenir la création, écouter des disques, c'est le meilleur moyen peut-être en ce moment.
Oui, et il y aura trois instruments rois ce soir dans notre lampiste contemporain, un saxophone, un piano et tout de suite un violon.
Thank you.
On finit par être familier des œuvres pour piano de Fazil Say, lui-même pianiste. Mais qu'en est-il de ses pièces pour violon? Nous le découvrons aujourd'hui grâce à un disque uniquement consacré à cet instrument, initié par le violoniste Friedemann Eichhorn. Ce dernier considère les pièces pour violon de Fazil Say comme parmi les plus remarquables du XXIe siècle. Il a un style de composition très personnel, nous dit-il. Ses pièces racontent des histoires. Son œuvre est un mélange de musique classique, tonale et atonale, de folklore et de jazz. C'est ce qui la rend excitante à jouer et c'est ce qui plaît immédiatement au public. Au programme donc le concerto pour violon Mille et une nuits dans le harem, vous venez de l'entendre, dirigé par le chef Christophe Eschenbach, et une sonate Mont Ida, le Mont Ida, une œuvre qui évoque la destruction de la nature au cours de l'ouverture d'une gigantesque mine d'or dans les montagnes d'Ida en Turquie. Des forêts entières ont été abattues et ça a provoqué la colère des militants écologistes. Cette sonate s'ouvre avec un premier mouvement menaçant qui nous fait entendre des machines destructrices, puis suit un second mouvement intitulé L'oiseau blessé, et c'est le violon qui incarne l'animal. C'est une partie complètement improvisée, confie Friedemann Eichhorn. Sur la partition, le compositeur a juste écrit « Improvisation sur n'importe quel son d'oiseau ». Cet enregistrement est donc une véritable première, le miroir d'un moment spécial et particulier. Thank you. La deuxième sonate pour violon et piano, et c'est la musique de Fazil Say avec cet oiseau blessé. Et c'est Friedman Eichhorn qui est au violon, Fazil Say l'accompagne au piano. Et c'est notre disque de la semaine.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Vous aussi, vous avez votre concerto pour violon, Rodolphe ?
Oui, on le doit au Canadien Sami Moussa, qui est un musicien dont le parcours est un peu à l'envers de celui de la plupart des jeunes compositeurs européens. Il a commencé, lui, par l'orchestre et de manière assez fulgurante, puisqu'il a tout de suite été sollicité par de grands chefs, Nagano, Eschenbach ou Boulez, qui ont commandé sa musique alors qu'il n'avait pas 30 ans. Avant même donc d'écrire des œuvres de musique de chambre ou pour instruments solo, Sami Moussa a d'abord écrit pour la grosse machine qui est l'orchestre symphonique, une machine qu'il maîtrise parfaitement. Et ce concerto pour violon le prouve. Le violon d'Andrew Wan est serein, il vole au-dessus de l'orchestre qui le soutient ou l'épouse. C'est une musique sensuelle qui refuse toute angoisse, il y a quelque chose de radieux. Et d'ailleurs, Le Devoir, le quotidien canadien, nous dit que c'est une œuvre irradiante, sorte de premier concerto de Prokofiev du 21e siècle, avec une section adamsienne, virtuose et un vrai esprit de dialogue. On va écouter un large extrait de ce concerto pour violon qui s'appelle Adrano. C'est la musique de Sami Moussa. Andrew Wan est au violon, l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Kent Nagano.
Thank you.
La musique de Sammy Moussa avec ce concerto pour violon Adrano, l'Orchestre Symphonique de Montréal sous la direction de Kent Nagano et Andrew Wan, merveilleux violoniste. On reçoit souvent dans notre
piste
quotidien, je me souviens d'un disque des concertos de Saint-Saëns que vous aviez beaucoup aimé, Émilie.
Mais c'est le violon solo de l'Orchestre Symphonique
Exactement,
de Montréal.
Premier violon de cet orchestre.
On abandonne le violon et voici un piano.
Thank you.
Voilà quelques notes d'une œuvre de Tzvi Avni. C'est un disque entièrement consacré à l'œuvre pour piano de ce compositeur israélien, musicien qui a aujourd'hui 93 ans, qui a fait ses études avec Paul Benaim, qui a poursuivi ensuite sa formation aux États-Unis aux côtés d'Aaron Copland et de Lucas Foss. C'est une personnalité très importante de son pays, grand professeur. Il a formé toute une génération de musiciens. Il a été président de la Ligue des compositeurs d'Israël, directeur artistique des Journées mondiales de la musique, président des Jeunesses musicales d'Israël, rédacteur en chef de son propre magazine. Vous voyez que sa carrière est riche. Et il a souvent répété d'ailleurs que les compositeurs devaient prendre la parole et devaient être impliqués dans la société dans laquelle ils vivent. Voici donc son œuvre pour piano. C'est une sorte de journal intime. On nous dit que chaque pièce s'inspire d'un événement, d'une expérience vécue par ce compositeur, donc Tzvi Avni. Les cycles présentés ici sont assez récents, composés entre 1993 et 2014. Et en plus des pièces pour piano seul, il y a un grand concerto composé en 2009 pour la pianiste qui l'enregistre ici, Heidrun Hoffmann. Dans les notes du livret, on nous dit qu'on y entendra l'influence de Bartok, Prokofiev, Shulov, Stravinsky et Shostakovich, que les rythmes d'Europe centrale se mêlent à la musique orientale et aux musiques traditionnelles juives. Je trouve que ça fait beaucoup pour un seul homme et une seule œuvre. Il a tout simplement son propre style, Tzvi Avni, comme vous allez le découvrir dans le final de ce concerto. Thank you. le concerto pour piano et orchestre de Zvi Avni, commande de la pianiste Heidrun Hoffmann, que vous avez entendu ici avec le Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, dirigé par Jamie Phillips. Et c'est donc un disque entièrement consacré à l'œuvre pour piano de Zvi Avni.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Voilà un disque que j'ai diffusé deux fois. Donc,
vous l'aimez beaucoup.
Oui, jamais 203, deux fois dans notre piste quotidien et pour la première fois ici, puisqu'il y a une création, on la doit à Jean-Baptiste Doulcet. Alors là, vous me dites, ah, Jean-Baptiste Doulcet.
Oui, c'est un pianiste,
voilà,
c'est quelque chose.
Mais évidemment, pianiste, lauréat du concours Long Thibaud, finaliste, mais figurez-vous qu'il est également compositeur, très bon improvisateur, il a fait d'ailleurs toutes ses classes du conservatoire, et il nous propose une œuvre qui s'appelle L'or et le cuivre. Alors on voit peut-être de quoi il s'agit, de ce bel instrument de la famille des bois qui s'appelle le saxophone et qui brille comme un cuivre. C'est le disque d'un musicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Arsenijevitch et qui nous propose donc ici une sorte de carte postale ou une carte d'identité même de son instrument. L'or, c'est peut-être aussi la sonorité de ce soliste, l'excellent Nicolas Arsenijevitch, qui a été élève de Claude Delangle. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que de la semaine prochaine, vous allez pouvoir entendre un grand entretien de Claude Delangle. Je suis un peu dans ma passion saxophone en ce moment, vous l'aviez remarqué, je crois, Émilie. L'or et le cuivre, c'est la musique de Jean-Baptiste Doulcet.
Thank you.
Et si on aime le saxophone, Rodolphe, on pourra entendre très bientôt, alors c'est pas à partir de demain, mais c'est la semaine d'après, votre grand entretien avec Claude Delangle. Ça doit être passionnant, ça.
C'est passionnant et on peut pas ne pas aimer le saxophone. Vous êtes quand même d'accord
avec
moi.
Mais écoutez.
On va finir avec la musique de Howard Kempton. Je ne sais pas si vous connaissez ce musicien britannique. On l'a présenté un petit peu comme le Satie de notre temps. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute sa musique, il y a un côté expérimental. Il a été pianiste, accordéoniste, professeur de musique. Et vous allez entendre, c'est une musique ultra mélodique qui s'écoute avec beaucoup de plaisir. Ce sont des petites œuvres pour piano. C'est une compilation de ses œuvres. Voici le Nocturne numéro 1. Musique un peu hypnotique, celle de Howard Skepton, ici interprétée par William Howard. C'est marrant, hein?
Il a quelque chose de Satie, non?
Le nom du pianiste et c'est le prénom du compositeur.
C'est William Howard Skepton.
C'est un concept.
C'est un signe, vous croyez?
Je pense.
Oh là là, Bruno quelque chose.
Il faut que je trouve un pianiste qui s'appelle Bruno quelque chose.
Vous avez un violoncelliste? Vous pouvez faire Rodolphe Bruno Philippe.
Voilà,
on peut écrire pour le violoncelle.
On va lancer un nouveau concept.
Voilà, c'est pas mal comme concept. C'est le moment de retrouver le journal de la création. Bonsoir Laurent Villarem.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe et bonne année à vous.
Mais bonne année à vous aussi Laurent.
Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette année
Des concerts.
Ouais. Voilà, on l'a dit, deux concerts d'ailleurs.
Et que les compositeurs retrouvent le chemin des salles et des moyens financiers pour vivre.
Au programme ce soir, Laurent, pour cette première émission de l'année.
Émilie et Rodolphe, est-ce que vous connaissez le proverbe? Il y a des gens qui parlent très bien par proverbe, moi je pas trop. Mais alors comment dit-on? Chat échaudé ne craint pas l'eau chaude, l'eau froide, vous savez?
C'est chat échaudé ne craint pas l'eau froide?
Non, voilà.
Je ne sais pas.
Alors on va essayer malgré tout, essayer de parler des concerts qui pourraient avoir lieu à partir du 7 janvier avec la réouverture des salles.
D'accord.
Et le programme est somptueux. Le 7 janvier, à la friche Belle de Mai de Marseille, Aurélien Dumont crée un spectacle Black Village d'après Antoine Volodine. Vous connaissez cet écrivain ?
Ouais.
C'est magnifique. Terminus
génial.
Radieux, vous l'avez lu ?
Ouais, c'est pas très joyeux.
Ah non, mais c'est beau.
Non, mais c'est très beau, effectivement.
Et donc, Aurélien Dumont crée un opéra d'après Antoine Volodine, et c'est L'Instant Donné qui joue cet opéra très prometteur le 7 janvier à Marseille. Le 8 janvier à l'Auditorium de Lyon, il y aurait une grande soirée Philippe Glass. Le 8 janvier encore, au Conservatoire de Gennevilliers, Martin Matalone, qui est vraiment le grand maître de ciné-concert, crée avec l'ensemble Multilatéral une nouvelle bande sonore pour des films de Buster Keaton. On continue. Le 9 janvier à Nanterre, Laurent Cugnot, le directeur de l'ensemble TM+, qui est aussi un excellent compositeur, crée une pièce qui cherche à revenir à l'origine du son. Et le 10 janvier, Rodolphe, je crois que ce sont de grands chouchous à vous.
Oui, j'ai beaucoup de chouchous, mais là, vous touchez une corde sensible.
Oui, c'est le chouchou d'or.
Oui, exactement.
Donc c'est Marie et Momo Kodama proposent un récital à la Scala Paris, avec des œuvres américaines, notamment une rencontre entre John Adams et son fils Samuel Adams, qui est aussi compositeur. Vous connaissez la musique du fils Adams ?
Oui, elle est très différente de celle du père. Elle est un petit peu contemplative.
Et je crois que le fils n'aime pas la musique du père. J'ai lu ça.
C'est possible.
J'irai la découvrir, en tout cas, je ne la connais pas du tout.
Oui, c'est une création parisienne.
Ah ben voilà, vous voyez.
Et donc, ce sera à la Scala, Paris.
Et une rencontre exceptionnelle, Laurent, pour commencer l'année. Vous nous gâtez, là,
ah oui, quitte à commencer 2021, autant l'ouvrir avec une légende, un trésor national. Eliane Radigue, la légende de la musique électronique, la magicienne des drones. Bonsoir, Eliane Radigue. On voulait commencer l'année avec vous et je voulais d'ailleurs vous souhaiter une belle année 2021.
Merci. Je vous souhaite de même, cher Laurent Villaret.
Alors, juste après notre journal, il y a une émission avec John Luther Adams, le compositeur américain, qui a dit que vous étiez une de ses plus grandes influences. Est-ce que vous le saviez ?
Non, je ne le savais pas particulièrement pour lui, mais j'ai la chance de recevoir des courriers, des témoignages d'une certaine influence que ma musique a sur d'autres musiciens. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'elles trouvent leur propre personnalité. Ils ne font pas la musique que je fais, mais je sens ce qu'ils en ont perçu. Et en fait, c'est comme une manière d'éveiller leur propre musique. Leur propre musique s'accorde avec la mienne.
J'ai une question pour vous. Pourquoi composez-vous ?
Oh, je n'en sais rien. Ça, je ne le sais pas. C'est comme la passion. La passion, ça ne s'explique pas. Hein. Je peux vous citer, tenez, un exemple alors tout à fait récent, hier, qui apparemment n'a rien à voir avec le faire de la musique, mais est pour moi une expérience musicale. Il y a en ce moment, depuis un mois, des travaux dans la rue devant chez moi. La chaussée a été entièrement refaite. Et hier, on en était au final, c'est-à-dire de mettre la couche de macadam sur laquelle passait un instrument pour le damer avec un rouleau. Et cet instrument avait une fréquence basse extrêmement intéressante et extrêmement basse à la limite des infrasons, ce qui m'a fait penser aux éléphants qui, eux, pratiquent dans leur barissement les infrasons. Et ce sont effectivement des fréquences qui ont une très très grande portée parce que à la fois j'ai ressenti la vibration dans mon appartement, mais le plus extraordinaire, c'est que la richesse sonore variait avec mes déplacements dans l'appartement. C'est-à-dire que les réponses acoustiques des différents points de mon appartement je pouvais faire une musique simplement en immersion chez moi, comme si j'étais dans le corps d'un instrument. Et donc, ça fait partie aussi de... Je ne sais pas si ça constitue une réponse à ce « Pourquoi composez-vous ?» mais j'ai composé comme ça, sans le savoir, pour rien. Et par contre, c'était une expérience en elle-même extrêmement fascinante et intéressante.
Merci beaucoup, Madame Radigue. C'était un très, très grand honneur pour nous. Merci encore et belle année à vous.
Merci. Je vous souhaite de même.
On finit l'émission avec la musique d'Eliane Radigue, car sans elle, il n'y aurait pas eu notamment le compositeur américain John Luther Adams, qui est le héros de notre carrefour de la création qui suit.
Avec vous, Laurent, dans un instant. Vous êtes un peu dans votre période planante, là. Vous aimez
oui, absolument.
Bien
c'est 2021, j'ai décidé d'être zen.
Ah ouais, vous avez bien raison.
Eliane Radigue a arrêté les œuvres électroniques et se consacre désormais à un cycle de pièces instrumentales qui s'appelle Ockham Océan. Nous allons entendre un extrait de son unique pièce pour orchestre. Elle a été créée en 2015 par Lonsheim au Crack Festival. Nous écoutons donc un extrait d'Ockham Océan d'Eliane Radigue. Océan d'Eliane Radigue.
Merci Laurent Villarem. On va vous retrouver dans un instant pour le carrefour de la création John Luther Adams. Mais tout de suite, ce sont les à-propos d'Antoine Berland avec, on va commencer l'année très sérieusement, un peu de sociologie, ça vous dit, Émilie?
Oui.
Mais la sociologie du Shadok.
Ah bah ça c'est parfait.
C'est mieux. Hein.
Oui, je préfère.
Les à-propos.
Antoine Berland.
90 secondes de son oui.
Je crois que c'est bon là.
Oui.
Les à propos.
C'est bon pour tout le monde.
Antoine Berland.
Oui.
Bonjour.
Et c'était les à-propos d'Antoine Berland.
Merci à l'équipe du soir, Claire Lagarde, Adeline Omello et Pauline Boisaubert.
À réécouter sur francemusique.fr.